Il était une fois, une émission de Kato Bell, Manu Van Leer et Angélique Tazio.
Bonsoir, merci de nous rejoindre dans Il était une fois pour une émission spéciale à l'occasion du Vendredi Saint en compagnie d'Angélique Tazio. Bonsoir Angélique.
Bonsoir Manu, bonsoir à tous.
Et avec nos deux invités aujourd'hui, Christophe Herings, théologien et journaliste de Kato Bell, et le frère Christian Ecote, prieur du couvent Fra Angelico des Dominicains à Louvain-la-Neuve et aumônier des étudiants du collège Albert le Grand. Oui. Bonsoir Christophe et bonsoir Christian Ecote.
Bonsoir Manu, bonsoir à
chacun,
à tous.
Bonsoir à vous tous et toutes.
Le Vendredi Saint, nous célébrons la Passion du Christ et sa mort sur la croix. C'est donc un jour triste pour les catholiques, Christian ?
Non, ce n'est pas un jour triste, c'est un jour d'accompagnement d'une tristesse. C'est un jour d'accompagnement d'une tristesse de la condition humaine qui atrocement veut tuer un innocent. C'est la tristesse de celui qui, voit la souffrance du monde encore aujourd'hui tellement honteuse dans tant d'endroits, mais qui se réjouit du combat contre ce mal que effectue Jésus.
Un jour pour se rappeler que Jésus a souffert pour les hommes, Christophe Herings, que nous dit cette souffrance ?
La souffrance du Christ, comme l'a dit Christian Ecote, c'est Jésus qui rejoint notre souffrance à toutes et tous. La souffrance en elle-même n'a pas de sens. On peut parfois, tout le monde se pose cette question, pourquoi la souffrance, pourquoi la maladie, pourquoi la mort ? Eh bien en fait, Jésus sur la croix nous dit que ça n'a pas de sens, mais il l'a subi avec nous, il a rejoint notre condition humaine pour la porter jusqu'au bout, mais au terme, puisque bien sûr le Vendredi Saint, trois jours après, il y aura la fête de Pâques, cette souffrance a une issue possible. C'est ce que nous dit la foi chrétienne. La souffrance, la mort ne sont pas le dernier mot.
Dans un article récent du journal Dimanche, Christophe Herings, vous expliquez que ce n'est pas la souffrance du Christ qui nous sauve ou nous libère du péché, mais que c'est son sacrifice. Pourriez-vous nous préciser cette distinction ?
Alors c'est vrai qu'on pourrait dire que le mot sacrifice, aujourd'hui on ne l'aime pas beaucoup, qui pourrait faire peur. Donc est-ce que le sacrifice est vraiment mieux que la souffrance ? En fait c'est dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, on cite un psaume qu'on attribue à Jésus. On dit à propos de Dieu qu'il n'a pas voulu d'offrande ni de sacrifice, alors voici je viens. Donc Jésus dit « voici, je viens », c'est-à-dire qu'il s'offre lui-même. C'est dans ce sens-là qu'il y a un sacrifice. Jésus, c'est l'envoyé de Dieu, donc pour rejoindre encore une fois l'humanité dans sa condition, dans toutes ses joies, dans toutes ses souffrances. Et c'est ce don de lui-même que Jésus va faire jusqu'au bout, par amour de son Père, par amour des humains. Et c'est cela qui nous sauve, en fait, quand il meurt sur la croix, parce qu'il prend cette souffrance pour la traverser. Et bien sûr, la souffrance est bien présente, mais ce n'est pas elle qui nous sauve, c'est plutôt la façon dont il la porte, parce qu'il va véritablement, encore une fois, la traverser et nous dire à nous, hommes et femmes, y compris aujourd'hui, eh bien, qu'on peut la traverser et que la vie est au bout de ce chemin de souffrance et de douleur pour beaucoup.
Il y a une véritable solidarité avec notre humanité, dans laquelle il s'implique à fond. Et il a tellement aimé notre humanité qu'il est venu nous rejoindre pour montrer qu'il y a une échappatoire, non pas à la souffrance, mais une sortie de cette souffrance.
Est-ce que la condamnation et la mort de Jésus doivent être comprises comme un échec ? Ce serait l'échec d'un messager de Dieu qui n'a pas réussi à se faire entendre de son vivant et celui de l'humanité qui n'a pas pris la mesure de ce message ?
Je pense que vraiment, c'est un échec. Et d'ailleurs, les disciples qui l'ont vécu l'ont bien compris comme ça. Pour eux, quand Jésus est mort, tout était fini. Et pour les premiers chrétiens, dans les premiers siècles, souvent nous on s'est habitué à ce signe de la croix ou de voir des crucifix, mais dans les premiers siècles, on ne voulait pas voir ce signe. C'était vraiment un signe d'infamie. Et donc oui, il ne faut pas le cacher, c'est un réel échec. Et là encore, et paradoxalement, c'est pour cela que cet échec de Jésus nous donne à nous une espérance. L'échec, personne ne le souhaite dans sa vie, que ce soit sa vie familiale, conjugale, dans son travail, mais l'échec fait partie de la vie de beaucoup. Eh bien, Dieu nous montre, à travers cet échec de la croix, encore une fois que ce n'est pas le dernier mot, on peut tous passer par des échecs, mais il est toujours possible de rebondir, même, et c'est évidemment facile à dire, même après des souffrances terribles qui peuvent vraiment nous ébranler jusque dans le fond de notre être, eh bien, il est possible de dépasser cela, mais avec l'aide de Dieu. Ça, c'est vraiment le message du christianisme, et c'est déjà évidemment la résurrection qui s'annonce. Au bout de l'échec, là encore une fois, il y a une porte de sortie. Si on apprend l'amour à travers l'échec, en fait, c'est ça, c'est vraiment un message d'amour qui transparaît à travers, dans le ventre du saint.
Tout à fait, c'est un réel échec dans le sens où, de fait, l'homme se fait tuer un autre homme, et donc c'est un échec de fraternité, un échec de solidarité, de vie commune. Mais pour moi, ce qui est aussi très beau, c'est que c'est un véritable échec de Satan. Un échec du mal, un échec de penser que la souffrance ou que la mort est le dernier mot. Jésus, dans cet échec humain qu'il vit et qu'il assume complètement, fait le triomphe du pardon et de l'amour parce qu'il dit justement « Père, pardonne-leur ». C'est donc un échec qui est l'échec du mal, qui croit qu'il va tuer Dieu et qui en fait permet à Dieu de montrer la Pâque, le passage vers la vie.
Christian Ricotte, aujourd'hui les chrétiens sont invités à participer au chemin de croix. Doit-on y voir une forme de dévotion ou de tradition? Qu'est-ce qui se vit avec ce chemin de croix?
D'abord, c'est le rappel de ce que Jésus lui-même a vécu, cette souffrance dont on vient de parler, cet échec, ce fait de condamner un innocent, disons, pas seulement l'assoiffer, mais de le terrasser ou de le clouer violemment. Ensuite, le chemin de croix est un rappel pour les chrétiens de ce qu'a vécu Jésus. Donc, c'est une association à, je dirais, la compréhension du projet de Dieu à travers la vie de Jésus. Et ensuite, c'est une dévotion que l'on peut faire, en effet, en ayant l'occasion d'aller à Jérusalem ou en étant dans sa paroisse ou en étant même dans la campagne. On peut rappeler qu'il y a, non pas des stations, comme on dit, mais un parcours de vie qui va, être au milieu dans notre situation, je dirais, une possibilité d'aussi prendre sur nous cette souffrance que Jésus a vécue et de l'assumer en sachant justement qu'il y a au bout et dans la confiance une percée de joie, de vie. Donc ce chemin de croix qui est formulé sous forme de 14 ou 15 stations, parce que maintenant on y ajoute depuis le Concile la résurrection, ce chemin est un chemin d'humilité, dans l'humiliation, un chemin de progression, de compréhension que la finitude humaine, eh bien, si on y met une pensée en pleine conscience de la volonté de Dieu de nous faire vivre avec et au-delà, eh bien, ça donne un moment commun pour les chrétiens qui n'est pas comme un sacrement, qui est plutôt comme, on dirait, pour des funérailles. C'est un moment de communauté où on vit une difficulté, mais où on garde une espérance et qu'on la formule ainsi en marchant de station en station, voilà, vers la Pâque.
Christian Ricotte, vous évoquiez 14 ou 15 stations. Oui. Est-ce que d'une paroisse à l'autre, d'un pays à l'autre, les chemins de croix peuvent prendre des formes différentes?
Oh oui, il y a, si on va en Amérique latine, c'est terrible. On le vit avec des véritables gens ligotés sur la croix. Mais dans nos paroisses ici en Belgique, eh bien, c'est plutôt des chemins de croix qui sont mis dans les églises avec 14 petites croix qui sont placées, ou bien des céramiques comme on a de Van der Linden qui sont très évocatrices, ou d'autres qui sont des figures que l'on met ou des photos que l'on met de personnes souffrant aujourd'hui, et on voit ainsi. Donc on fait une progression dans le bâtiment église ou dans la communauté villageoise, on le met comme un moment de réflexion sur ce qu'a vécu le Christ Jésus en son temps, mais on l'actualise. Et en fait, on a des stations qui sont bibliques et d'autres stations qui ne sont pas bibliques, qui sont vraiment dévotionnelles. C'est vrai que Jésus, à Gethsémani, est complètement à terre et atterré. Et donc, on va dire qu'il est tombé à terre pendant son chemin de croix. On voit que Marie reçoit Jésus à la fin du chemin de croix quand il est descendu de la croix. Ben, on va mettre Marie sur le parcours qui, elle, a peut-être continué. Une des seules femmes qui n'a peut-être pas accepté que c'était fini, mais qui avait une espérance que peut-être ça continue encore dans l'avenir. Donc, on a des stations bibliques, des stations non bibliques, mais deux, trois qui sont très importantes, c'est justement le fait que Jésus accepte ce sacrifice de cette immense poutre Lui qui est charpentier, il savait qu'avec d'une poutre, on peut faire un berceau, on peut faire une belle barque, mais aussi ça devient parfois un poteau de gibet. Et donc, il va accepter ce sacrifice dont on a parlé. Mais il y a aussi cette belle, station où Simon de Cyrène va accompagner Jésus, le suivre. Et nous aussi, on est appelés à suivre Jésus. On peut porter avec lui une souffrance d'aujourd'hui, et en faire, la transformer en don d'amour ou en don d'accompagnement des souffrants. Et puis, à cette autre station, Jésus rencontre les femmes, où il leur dit, attention, il y a bien des raisons de pleurer, mais ne pleurez pas sur un arbre qui est tout vert, magnifique, comme je suis, mais pleurez sur les arbres morts qui sont des gens qui ne font plus rien de leur vie. Donc, il y a des stations qui sont très puissantes. Et puis après, il y a cette fameuse station où, en fait, Jésus est cloué sur le bois. Et moi, j'aime toujours bien de parler à Pâques de la cloche. La cloche, on croit qu'elle est partie à Rome et puis qu'elle ramène des petits œufs. C'est pas du tout ça. C'est la cloche, c'est en fait le rappel de la souffrance terrible que Jésus a entendue comme bruit du clou frappé dans le bois, et ensuite du marteau qui frappe sur le clou, ça fait ding, ding, ding. Et le bruit des cloches doit nous rappeler cette souffrance que Jésus a vécue et de venir rendre grâce ou de venir remercier de ce qu'il a assumé pour nous sauver.
Donc le chemin de croix fait pleinement partie du Triduum.
Ah oui, absolument. Le Triduum, ça veut dire trois jours. Le 3-3, c'est un chiffre, disons, complet, un chiffre de Dieu, mais c'est d'abord le testament de Jésus le jeudi saint, l'acceptation de la lutte contre le mal le vendredi saint, et puis le samedi, la préparation de l'éclatement de la lumière pascale. Oui.
Christophe Herings, comment se déroule la célébration du vendredi saint dans les paroisses?
Alors c'est une très belle célébration. Ça commence, c'est une célébration qui est marquée par le silence. Il y a très peu de musique, ou même pas du tout, quelques chants un petit peu austère, chose de très modeste. Et surtout, voilà, dès le départ, le célébrant, ou le président plutôt, que ce soit le prêtre ou l'évêque, il commence par se coucher devant l'autel, dans un grand silence. Eh bien, c'est vraiment en signe, comme Jésus qui s'est abaissé jusqu'au bout. Ce qu'en grec on appelle la kénose. Et encore une fois, c'est ce signe de Dieu qui rejoint l'humanité jusque dans son néant, jusque dans sa mort. Ensuite, la célébration se poursuit, bien sûr, avec les lectures bibliques, l'évangile, souvent une courte homélie, mais qu'on essaye de laisser de façon très sobre. Voilà. Et puis, il y a cette grande prière, une grande intercession, où on va prier, bien sûr, pour les chrétiens, mais aussi pour les politiques, pour les personnes qui souffrent, pour les malades, pour les personnes d'autres religions, pour les croyants d'autres religions. C'est quelque chose de très beau. Donc, c'est comme une prière qui veut embrasser le monde entier pour bien dire que bien chacune, chacun, à toutes les époques, est concerné par ce qui est en train de se passer. Ensuite, il y a une vénération de la croix, vraiment cette image de Dieu qui est là pour nous sauver, qui nous a rejoints, une méditation aussi dans le silence. Et alors, très frappant aussi, pendant cette célébration, il n'y a pas d'Eucharistie qui est célébrée. Pourquoi ? La veille, on aura célébré le Jeudi Saint, qui est justement ce jour qu'on commémore, où Jésus a institué l'Eucharistie, où il a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », vraiment comme déjà une anticipation du don qu'il va faire le lendemain. Et justement, le Vendredi Saint, c'est le moment de ce don à travers sa mort. Et après, on retrouvera l'Eucharistie pendant la vigile pascale, parce que voilà, le Christ est ressuscité à ce moment-là, et donc le corps et le sang du Christ, c'est toujours, auquel on communie, c'est toujours le corps et le sang du Christ mort et ressuscité, auquel le chrétien va participer. Donc une très belle célébration, toute faite de sobriété.
Dans l'Orient aussi, en Orient, on a une très très belle dévotion du Vendredi Saint, mais au lieu de vénérer la croix en la touchant ou en la baisant, comme certaines personnes font lorsqu'il y a un défunt, on touche le cercueil, si on vénère le Christ qui a donné sa vie. En Orient, ils ont cette différence, disons, de tradition, où on met un grand drap comme le linceul du Vendredi Saint, que Joseph d'Arimathie a acheté, et les gens passent sous le linceul, donc sous le drap, et pour me montrer, avec Jésus, je trace traverse, j'accepte la mort et je veux en sortir. Et alors, à la sortie de cette traversée sous un drap qui est tendu par quelques fidèles, on lance des pétales de rose, comme à un mariage qu'on fait aujourd'hui, où, pour dire, voilà, il y a une sortie de la mort et on accepte qu'il y a cela. C'est un peu comme le rappel du baptême, mais vécu le vendredi saint.
Christian Lecaute, vous parlez de l'Orient, vous avez vécu vous-même en Terre Sainte pendant de nombreuses années. On voit aujourd'hui la situation avec beaucoup de tensions, avec beaucoup de violence. Est-ce que c'est un temps particulier qui va se vivre en Terre Sainte malgré la situation actuelle?
Alors oui, je me suis intéressé à quelles seront les célébrations à Jérusalem ce vendredi saint et quelles sont les célébrations. Il y en a deux qui sont données de la Passion du Christ. Un, c'est dans un couvent de religieuses à Lecce Homo à 17h et l'autre, c'est à Saint-Étienne à la Grande Basilique à 17h également. Et donc, il y a des célébrations offertes pour les fidèles, mais ce sont plus les grands groupes de pèlerins qui vont rejoindre ces célébrations, ce sont plutôt les gens locaux. Et donc, ce qu'on peut penser, c'est que justement, à Gaza, ils vivent un vendredi saint depuis 6 mois presque. Donc, c'est absolument atroce. Mais il y a dans chaque célébration chrétienne, toujours, on ne s'arrête pas au mal et à la mort, mais on sait qu'avec Jésus, on passe au-delà ou à travers, on vainc cette mort par un amour plus grand.
Christophe Herings, le vendredi saint, le silence prend une autre dimension durant cette célébration.
Oui. Alors le silence, on sait aujourd'hui, il est parfois difficile à trouver. Le silence peut être signe d'absence, peut être signe d'une solitude radicale. Et Jésus a vécu ce silence-là aussi, le silence de Dieu, quand il crie sur la croix « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà, c'est ce silence comme un vide qu'il a vécu. Aujourd'hui aussi, dans nos sociétés, on commence à reprendre conscience que les silences peuvent être aussi synonymes de ressourcement, synonymes de renouer avec soi-même. Et pour les chrétiens, pour les croyants aussi, c'est la possibilité, enfin pratiquement une condition indispensable de pouvoir entrer en communion avec Dieu. Donc je dirais que le Vendredi Saint, il y a ce double silence. Le fait de rejoindre le Christ dans ce moment de solitude qui est la nôtre, en fait c'est plutôt le Christ qui rejoint notre solitude, qui rejoint notre cri où chaque fois qu'on vit une souffrance que nous ne voulons pas, que Dieu ne veut pas non plus, on dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus nous rejoint vraiment à ce moment-là. Et alors, on le sait, hein, dans les évangiles, ceux qui assistent, que ce soit les grands prêtres, les juifs, les soldats de l'armée romaine, eh ben, se moquent de Jésus. Ben voilà, on va voir si Dieu va lui répondre. Mais en fait, effectivement, Dieu va répondre à Jésus par la résurrection. Encore une fois, c'est Vendredi Saint, appel Pâques et réciproquement. Donc, la réponse de Dieu à ce silence, c'est la vie nouvelle qu'il nous donne à travers cette souffrance. Encore une fois, il est vraiment important de dire que Dieu ne veut pas la souffrance. Quelque part, la souffrance est un mystère pour lui aussi, mais il l'assume avec nous jusqu'au bout.
Il y a cette double réalité du silence devant les juges, hein, devant le tribunal. Pourquoi ne réponds-tu rien à ces accusations? Il y a ce vrai silence de Jésus qui calme le jeu, le silence devant Pilate. Et puis, il y a ce grand cri qui fait justement... Parce qu'il y a un silence, le cri devient d'autant plus fort de la prière que Jésus fait sur la croix en disant ce psaume 22 de mon Dieu, mais qui va se terminer par « Je te louerai hein, ». Et puis le grand cri quand il expire et qui fait qu'il y a, je dirais, comme une sortie de volonté de ne pas accepter cette souffrance, justement, mais de la transformer.
Aujourd'hui, Vendredi Saint, les églises ont été dépouillées. Ça signifie quoi, ce dépouillement?
Ah, moi, j'ai envie de dire spontanément, c'est à l'image de notre finitude, la finitude de notre humanité, face à la mort, face à la souffrance, on est démuni, on est dépouillé. Encore une fois, c'est alors que le silence, hein, c'est évidemment au niveau auditif, mais là aussi, au niveau visuel, il y a une sorte de vide qui est créé, pas artificiellement, mais voilà, c'est le vide, c'est une forme de désolation. Mais en même temps, ce vide, c'est une ouverture possible à un au-delà, c'est une ouverture possible à Dieu. Au fond, c'est comme ça que la spiritualité chrétienne aussi l'a toujours perçu. On peut, je dirais, voir notre finitude aussi déjà comme une annonce d'échec, hein, pour revenir à cette idée-là, de dire ben, finalement, l'être humain est un être pour la mort, comme dit Heidegger, comme on dit d'autres philosophes. On ne peut pas refuser cette condition-là, mais il y a un au-delà de cette condition. C'est-à-dire, Dieu ne nous a pas créés pour la mort. Il a suscité la vie pour qu'elle puisse s'épanouir pleinement. On l'a dit, Dieu ne veut pas la souffrance. Pour Dieu, la souffrance est aussi un échec. Il n'a pas créé le monde. La souffrance, quelque sorte, n'était pas prévue. Hein. Jésus, à un moment, y fait allusion dans une parabole. Le jardinier ou le semeur a semé un bon grain. Et puis, voilà, le matin, on découvre l'ivraie. Tiens, qui a semé ça? Eh bien, c'est un ennemi qui a fait ça. Alors, souvent, on identifie cet ennemi comme étant Satan, etc. Mais en tout cas, voilà, ce qui est important de retenir, ce n'est pas Dieu qui veut que notre finitude soit débouche sur une souffrance radicale qui est finalement la mort. Mais voilà, le vide de ce vendredi saint, c'est Dieu qui rejoint notre néant, ou en tout cas notre finitude qui peut être radicale, et que Dieu seul, au fond, peut remplir ce qui va se manifester. Alors, évidemment, la nuit de Pâques, où donc là, eh bien, en général, on aura une église bien décorée avec des fleurs, surtout que c'est le printemps qui commence.
Voilà, justement, le printemps qui est là, mais justement, la petite graine enfouie, on ne voit plus rien. La petite graine est enfouie dans le sol, Jésus est dans le tombeau fermé, la pierre est roulée, on ne voit plus. Donc, il y a un dépouillement visuel et un dépouillement de silence et de calme en attendant, avec angoisse parfois ou à espérance, autre chose qui va sortir, qui va germer.
Le Vendredi Saint est un jour de recueillement, hein, et les chrétiens sont invités à prier et à jeûner. Quel est le sens de ce jeûne?
Le jeûne, c'est un peu comme le dépouillement pour le corps aussi. C'est cette privation que l'on fait parce que justement, Jésus n'a rien mangé ce Vendredi Saint non plus. Il a bien mangé le Jeudi Saint, mais le Vendredi Saint, c'était abstinence complète. Hein. Il n'a rien reçu depuis le Jeudi Saint. Sauf on lui a apporté du vinaigre ou une forme de drogue, mais il n'a pas pris. Donc, c'est vraiment, on s'associe à cette mort en disant, nous aussi, on va se priver pour vivre cette, je dirais, autre chose que le physique, mais on va essayer d'accentuer le spirituel.
C'est important de ressentir ce manque.
Oui, c'est une privation positive. Justement, on s'abstient de faire le mal, on s'abstient aussi de travailler de quelque manière pour se faire plaisir, puisqu'on s'associe à cette recherche de triomphe sur le mal qu'a vécu Jésus.
Est-ce qu'on peut dire que la fin physique symbolise une fin de spiritualité?
On peut le prendre ainsi, oui. C'est un effort personnel. C'est en même temps une conscience aussi, une pleine conscience, comme on aime à dire aujourd'hui, de ce qui vaut la peine et donc de choisir quelquefois entre la facilité ou, je dirais, la privation pour autrui. C'est pas une privation pour se faire du mal, justement. C'est une privation pour partager peut-être avec autrui qui n'a pas ou qui manque.
Une privation consciente.
Oui, tout à fait.
On peut peut-être dire aussi par rapport à ça, hein, la période de carême est maintenant terminée avec le Vendredi Saint, les Triduums Pascal. Donc là aussi, pendant 40 jours, on était invité à jeûner et on a rejoint le Christ au désert où là aussi, il n'avait pas mangé pendant 40 jours selon les évangiles. L'idée, effectivement, c'est un petit peu ça, Jésus qui dit l'homme ne se nourrit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'ailleurs, il cite l'Ancien Testament en disant ça. Effectivement, ça nous rappelle que rien ne peut nous combler entièrement. L'humain ne peut pas se combler entièrement soi-même à travers tout ce qu'il cherche à acquérir dans sa vie, que ce soit évidemment de nourriture, qui est bien sûr indispensable à la vie, mais ce désir qui existe au fond de l'humain, il n'y a que Dieu finalement qui peut le combler. Et ça aussi, c'est ce qu'on vit à Pâques, c'est ce que Dieu nous donne à Pâques, finalement, cette vie nouvelle que Dieu nous donne à la résurrection après la souffrance, eh bien, c'est ça, véritablement, à quoi nous sommes profondément appelés en tant qu'être humain, tout simplement.
On est donc loin d'une consommation effrénée.
Absolument, et à travers ça, on peut dire que le jeûne est quelque part très actuel. On appelle de plus en plus à une forme de sobriété, à changer nos modes de vie pour des raisons écologiques, mais on pourrait dire qu'une forme de jeûne est aussi, à certains moments, une forme d'écologie spirituelle personnelle.
Dernière question, on sait que dans la foi chrétienne, la mort n'est qu'un passage. C'est un temps de tristesse, mais accompagné de l'espérance. Christophe Rings et Christian Eckhout, peut-on dire que sans Pâques, pas de Vendredi Saint, et sans Vendredi Saint, pas de Pâques?
Oui, sûrement on peut associer les deux, comme disait Christophe Rings, les deux vont ensemble dans l'Église et dans la foi. La souffrance, non, ne s'arrête pas à ça, c'est, on la prend en considération et la vaillance de Jésus nous revigore pour vivre cette souffrance. Mais ben, je pense aux gens qui sont en soins palliatifs ou aux gens qui sont en fin de vie, eh bien, si on peut voir leur donner une espérance, eh bien, c'est de savoir que justement, ça ne s'arrêtera pas là. Il y a un au-delà de cette souffrance. Et donc, Pâques, c'est cette sortie de la souffrance, cette sortie du tombeau, cette sortie de la mort, cette fin du péché qui opprime et qui oppresse l'être humain. Et donc, le Vendredi Saint n'était pas le souhait sûrement de Jésus, mais il l'a accepté parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Que ta volonté soit faite, Père. Moi, je voudrais que cette coupe s'en aille, que je voudrais pas souffrir. Moi, jeune homme de 30 ans, j'ai pas du tout envie d'être le perdant de la guerre contre le mal, mais je vais faire la guerre à la guerre. Je vais au contraire me soulever pour faire face. Et donc, le vendredi, c'est faire face à la mort, et le dimanche, c'est sortir de la mort, parce que c'est le projet de Dieu de nous faire vivre avec lui en traversant parfois les vicissitudes de ce qui empêche l'amour.
Christophe Rings.
J'aurais envie d'ajouter à ce que dit Christian Eckhout, hein, c'est dans l'évangile de Jean, quand on parle de la mort de Jésus sur la croix et de la résurrection, Jean utilise un seul verbe qui est le verbe « élever ». Là aussi, il y a dans le chapitre 3, l'évangile de Jean, « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, et quand je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. » Ça veut dire que pour nous, qui vivons concrètement dans cette vie, le Vendredi Saint appelle toujours pas quelque part. On n'est jamais dans une pure souffrance. Il faut savoir aussi que Dieu nous accompagne, le Christ est ressuscité, et sa présence peut réellement nous aider. C'est une expérience qu'on peut faire en tant que croyant. Ça peut être facile à dire, mais je pense qu'on peut vraiment espérer concrètement un soutien de Dieu. Et bien sûr, oui, pas de dimanche sans Vendredi Saint, parce que la souffrance étant là, on n'a pas le choix, comme l'a dit Christian Eckhout par rapport au Christ, il faut la traverser. C'est pas la volonté de Dieu de souffrir. Dieu ne veut pas. Dieu, évidemment, n'a pas voulu que son fils souffre sur la croix. Mais c'est le seul moyen, en tout cas, que Dieu a trouvé pour dépasser la souffrance de l'intérieur. Évidemment, on peut se demander pourquoi 2000 ans après la résurrection, il y a toujours autant de souffrance dans le monde. Mais je pense que la question est renvoyée à l'être humain. Pourquoi ne suit-on pas cette voie de l'amour que nous a montré Jésus, hein? Il est vraiment le premier-né d'entre les morts aussi. Pourquoi voilà, je pense que ce pourquoi doit être renvoyé à l'être humain. Mais la porte de sortie est toujours ouverte et toujours accessible à travers la foi, et on est vraiment invité à entrer dans cette porte qui est déjà finalement essayer de vivre le royaume de Dieu sur terre, ici et maintenant.
Eh bien, Christian Eckhout et Christophe Rings, un tout grand merci pour ces enseignements sur la souffrance, sur le chemin de croix et sur la liturgie du Vendredi Saint. Merci Angélique Tasio, merci à Elisabeth Michalakoudis. Notre prochain rendez-vous dans Il était une fois, ce sera donc dimanche à 20h pour la fête de Pâques. Et nous recevrons le père Jacques Pinault. D'ici là, très belle soirée à toutes et tous. Angélique, Christian et Christophe, merci encore et à très bientôt.